Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter Erdiwa sur le 107.5 FM, Radio Saint-Ferréol sur le 94.2 et puis bien sûr, pourquoi pas sur internet, sur le www.rdwa.fr. L'émission Biotope du jour va mettre en avant l'autonomie énergétique des communes avec, en exemple, la commune de Luc-Andiwa. Et c'est pour cela que je suis en compagnie de Raymond Parent, maire de Luc-Andiwa. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour parler pendant cette demi-heure d'un exemple justement très concret. Vous êtes en train, à la mairie de Luc-Andiwa, de monter ce qu'on appelle une micro-centrale.
Alors, c'est pas tout à fait exact puisque la micro-centrale existe depuis 26 ans.
Ah.
Donc c'est déjà une micro-centrale ancienne. Et à l'époque, lorsqu'elle a été réalisée par la commune de Luc, nous étions tout à fait à l'avant-garde en ce qui concerne la production d'électricité à partir d'une énergie renouvelable, puisque c'est une micro-centrale qui est au fil de l'eau, qui utilise donc l'eau de la rivière Drôme pour produire de l'électricité. Et donc on peut dire que cette électricité-là, c'est une électricité provenant d'un équipement durable et renouvelable, et surtout nous produisons de l'énergie totalement verte.
Peut-on savoir pourquoi est-ce que tout d'un coup on s'intéresse à ce sujet? Est-ce que vous êtes en train de la rénover, de l'améliorer?
Alors nous l'avons améliorée, optimisée au fil des années, de manière à ce que cette micro-centrale soit tout à fait performante. Et puis nous avons été obligés, bien entendu, de la mettre aux normes en fonction de l'avancée des différentes technologies. Donc c'est une machine très performante, remarquable, puisque cette micro-centrale a une puissance de 900 kW et c'est la seule micro-centrale communale qui existe en Drôme et en Ardèche. Toutes celles qui existent sont des micro-centrales privées.
Privées. Voilà, on peut citer par exemple très localement celle de Romeyé, dont on va avoir un petit clin d'œil dans le cadre de l'émission. Et puis on peut aussi citer celle des Gas, qui est dans la montée de Grimone, qui elle, effectivement, est une centrale privée. Alors la centrale de Luc qui nous intéresse, elle est située, si je ne me trompe pas, sous le viaduc, le gros viaduc, donc le long du CLAPS.
Oui. Elle est à l'aplomb du viaduc SNCF. Avec une prise d'eau qui se trouve légèrement au-dessus, donc du côté de la baignade. La longueur de la dérivation est d'environ 350 mètres.
C'est en réalité pas très très long en fait, hein, pour donc avoir suffisamment de force.
Voilà, il y a suffisamment de force puisque nous avons quand même une hauteur de chute qui est de 34 mètres. Donc c'est suffisant pour pouvoir actionner la turbine de la micro-centrale.
Décrivons un petit peu cette micro-centrale. Vous venez de dire tout à l'heure 900 kWh,
voilà,
c'est ça?
C'est la puissance maximale.
Est-ce qu'elle est réellement dans ces rendements-là tout le temps?
Alors, il arrive heureusement que certains hivers ou au printemps, lorsqu'il y a la fonte des neiges, qu'elle tourne à plein régime. Par contre, il y a des périodes où elle ne tourne pas du tout. C'est le cas actuellement. Depuis 3 mois, compte tenu de la sécheresse et du manque d'eau dans la rivière, elle ne fonctionne pas du tout parce que nous avons une obligation de débit réservé que la loi impose à tout producteur d'énergie à partir de l'hydraulique. Et donc ce débit réservé est relativement important et nous empêche de turbiner en période de sécheresse.
C'est-à-dire que ça pourrait assécher la Drôme sur 300 mètres ?
Ça pourrait effectivement assécher la Drôme, mais après, bien entendu, nos petits poissons ne seraient pas contents du tout de ne plus avoir d'eau dans la rivière. Donc ce débit réservé, il est important de le respecter, ce que nous faisons, de manière à ce que la vie piscicole puisse continuer.
De toute façon, l'eau, vous la rendez dans la Drôme après.
Absolument. L'avantage de ce type d'équipement, c'est que nous restituons la totalité de l'eau que nous prélevons en amont. Donc il n'y a aucune perte d'eau.
À titre pareil de comparaison, est-ce que vous savez quelle est la consommation d'un village comme Luc, justement, en électricité? Est-ce que ça correspond bien à une économie concrète pour la commune?
Alors, les calculs qui ont été faits montrent que donc, la production moyenne de notre micro-centrale, tout d'abord, est de plus de 2 millions de kWh en moyenne, donc depuis les 26 ans qu'elle existe, ce qui correspond à la consommation moyenne annuelle de 520 foyers, donc à Luc, qui est environ 500 habitants. On pourrait bien entendu produire de l'électricité pour le village sans avoir recours au réseau EDF, sauf que jusqu'à présent, EDF avait le monopole avec une obligation de rachat, ce qui ne sera plus le cas le mois prochain. Donc effectivement, la microcentrale de Luc pourrait tout à fait desservir l'ensemble des habitants du village. Alors je signale aussi que cette production permet d'économiser 450 tonnes de pétrole par an, évite le rejet de 1000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et il faudrait planter 56 000 arbres pour obtenir la même réduction de CO2 sur le secteur. Donc vous voyez l'importance d'un tel équipement, tout à fait intéressant à la fois pour la commune compte tenu de la ressource financière complémentaire que ça peut procurer, mais aussi pour l'environnement en général.
Ça vous permet d'économiser par exemple sur tous les frais d'éclairage public sur,
Nous envisageons un programme de réduction de notre consommation d'électricité en ce qui concerne l'éclairage public, mais ça ne peut être fait que sur des investissements neufs, parce que sur l'ancien, on ne peut pas mettre en place des dispositifs tendant à réduire la consommation d'électricité. Donc ça, c'est envisagé sur les futurs travaux qui vont se réaliser dans la commune.
Alors pour revenir un petit peu en arrière et faire un peu l'historique de cette centrale, 26 ans, vous l'avez dit, est-ce que vous connaissez la genèse de ce projet? Pourquoi tout d'un coup à Luc, alors que justement vous étiez les pionniers, pourquoi cette envie?
Alors si on remonte à la première année, en 1987, c'était l'époque où il y avait eu le premier choc pétrolier en France, et déjà à l'époque, on s'interrogeait de savoir s'il était possible de produire de l'électricité autrement que par les moyens traditionnels, le nucléaire, le charbon, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que, en France, dans beaucoup de secteurs, certaines communes, certains particuliers ont imaginé d'utiliser l'énergie hydraulique pour construire plusieurs centaines de microcentrales qui, pour certaines, sont très petites, mais malgré tout apportent aussi leur contribution pour produire de l'énergie verte. Donc à l'époque, le conseil municipal de Luc était un petit peu à l'avant-garde en ayant eu cette idée de dire « nous allons faire une microcentrale au CLAPS », sachant que les premières études remontent à 1980-82 et avaient démontré qu'il y avait possibilité de créer un tel équipement sur la rivière Drôme au niveau du CLAPS.
Oui, parce qu'évidemment, ça, on a peut-être un petit peu oublié de le dire, mais il faut quand même une certaine force motrice. On a cité Remeillé qui, effectivement, a beaucoup d'eau qui descend du Glandas. Finalement, sur la Drôme, l'endroit où il y a le plus de débit, c'est vraiment que au CLAPS.
Alors effectivement, au CLAPS, il y a quand même un peu de débit puisque nous bénéficions de l'eau qui provient des petits torrents qui sont à côté, notamment je pense le rive de Miscon par exemple. Cela dit, il y a des périodes où le débit de la rivière Drôme est très fluctuant. C'est le cas actuellement, nous avons peu d'eau comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait qu'on ne peut pas turbiner. Par contre, lorsqu'il y a des hivers, notamment des hivers avec beaucoup de neige, au printemps, nous avons beaucoup d'eau dans la rivière Drôme, ce qui nous permet de turbiner au maximum.
Est-ce que dans les années 80, justement, c'était un petit peu moins le cas, les sécheresses étaient moins violentes? Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet se referait concrètement?
Je pense qu'il pourrait se refaire. On ne peut pas dire qu'il y avait plus d'eau à l'époque, au départ de la construction de la microcentrale, puisque si je m'en réfère aux productions qui ont été faites depuis 26 ans, on s'aperçoit que c'est il y a 3 ans, donc en 2010, que la microcentrale a le plus turbiné. Et cela grâce à un hiver neigeux important, puisqu'il y a eu des hauteurs de neige très importantes sur le Haut-d'Iois. Et ça se retrouve bien évidemment à la fonte des neiges au printemps, où le débit des rivières augmente d'une façon considérable. Et nous avions pu à l'époque, pendant 3 mois, quasiment tourner à plein régime. Donc en fait, la meilleure année de production, c'est 2010, alors qu'on a eu, notamment dans les premières années, on a eu des années où on turbinait très peu, il y avait peu d'eau.
D'accord, donc en fait, c'était un désir municipal, on va dire, voire collectif, de se doter d'un outil comme ça, mais sans avoir vraiment l'assurance que ça...
Absolument, mais ça, on le savait au départ. Hein. C'est très aléatoire. Alors, il y a des années où on produit de l'électricité et donc on dégage des bénéfices, naturellement, qui viennent en appoint du budget communal traditionnel. Donc, c'est une source de revenus complémentaire importante pour la commune lorsque l'on turbine beaucoup. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand il pleut à Luc, on est content parce qu'on produit de l'électricité.
Ben justement, vous venez de l'aborder. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres très concrets en moyenne, bon, en 2010, c'est votre pic de production, mais une moyenne annuelle de revenus, par exemple?
Alors, sur les 26 années de fonctionnement de la microcentrale, la production moyenne donc, sur ces 26 ans est de 52 349 kilowatts. Et la recette brute, je dis bien brute parce qu'il faut déduire naturellement les emprunts que la commune avait réalisés à l'époque que l'on vient de finir de payer cette année. La maintenance, les réparations, l'entretien de la machine qu'il faut détartrer régulièrement. La moyenne donc de recette brute sur 26 ans est tout de même de 143 000 euros arrondis. Mmh. Donc vous voyez que c'est quand même important. Pour le budget communal d'avoir cet appoint financier.
Oui, il y en a qui ont des centrales nucléaires qui payent des impôts très très forts, mais en fait on peut aussi se faire son propre revenu comme ça avec de l'énergie.
Bien sûr, et donc cet argent permet à la commune de faire certains investissements qu'elle n'aurait pas pu faire dans l'immédiat ou pour lesquels elle aurait dû avoir recours à l'emprunt. Mmh. Donc ça nous est arrivé de financer un certain nombre d'équipements lorsque la microcentrale a dégagé beaucoup de bénéfices.
Vous avez parlé quelques instants de l'entretien. Est-ce qu'on peut préciser comment travaille-t-on sur une microcentrale?
Alors, nous avons une société basée à côté de Grenoble qui assure la maintenance, les dépannages de la microcentrale. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, qui est la société EREMA, donc qui est chargée de l'entretien et de la maintenance de notre microcentrale. Cela dit, les employés communaux font également de l'entretien et de la maintenance. Et tous les 3 ou 4 ans, on est obligé de la démonter entièrement et de la détartrer, puisque la rivière Drôme charrie beaucoup de limon. Et ce limon vient s'accrocher sur les parois de la turbine, en crasse, s'épaissit. Pour maintenir le rendement maximum de la machine, il faut la nettoyer très régulièrement, ce que nous faisons bien entendu.
Alors cette opération d'ailleurs de nettoyage dure combien de temps à titre d'exemple ?
Alors on l'a fait généralement au mois d'août, voire début septembre. C'est une opération qui dure une quinzaine de jours, parce qu'il faut entièrement la démonter. Et ça permet aussi de changer quelques petites pièces qui sont plus ou moins abîmées. C'est une révision complète, comme on fait la révision d'un moteur de voiture, voilà.
Et a priori, est-ce que c'est une structure qui tombe souvent en panne ?
Non,
Faut-elle la surveiller souvent ?
Non, en fait, elle fonctionne quand même bien régulièrement. Il arrive parfois qu'avec le réseau électrique d'EDF, il peut y avoir des coupures, notamment l'hiver quand la neige surcharge les lignes électriques. Mais en fait, il y a un système automatique qui permet assez souvent de la remettre en route automatiquement. Sinon, bien entendu, il y a une intervention soit des employés communaux, soit de la société chargée de la maintenance qui intervient immédiatement. Mmh. Il faut savoir que quand on a une journée où la machine tourne à plein régime, la perte de recettes d'une journée peut représenter 2000 à 2500 euros. Évidemment, on intervient tout de suite, même si c'est le samedi ou le dimanche ou un jour de fête.
Alors ça, c'est pour ma simple curiosité. Comment vous vous rendez compte qu'elle ne marche plus ?
Alors, il y a un système de téléalarme automatique qui prévient la société de maintenance directement. Et puis, on a un agent communal et j'ai un adjoint aussi de la mairie qui passe régulièrement puisqu'il habite un tout petit peu plus haut. Donc, il s'arrête souvent pour voir si tout fonctionne bien. Mais enfin, en fait, c'est la société de maintenance qui est alertée immédiatement.
Est-ce dangereux ?
À ma connaissance, non. Il n'y a pas de risque.
On ne peut pas accéder à la turbine, on peut pas...
Alors, on peut y accéder, mais il y a les protections nécessaires. Lorsqu'elle est en fonctionnement et qu'on rentre à l'intérieur du local, c'est extrêmement bruyant, mais il n'y a aucun risque.
Et sur l'extérieur, la partie qui pompe l'eau et la partie qui la
rejette. Sur l'extérieur, c'est pareil. Il y a des protections, hein, il y a des clôtures qui évitent tout accident. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'accident de ce fait-là. Il faut savoir aussi que nous faisons visiter la microcentrale parfois des scolaires qui sont très, très intéressés, les enfants, de voir comment, à partir de l'eau, on peut produire de l'électricité. Donc, nous faisons venir les classes primaires. Et on leur explique comment ça fonctionne.
Est-ce que le bâtiment est respecté ? Est-ce que vous n'avez jamais eu de problème d'intrusion pour s'amuser, ce genre de choses ?
Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de dégradation, quelle qu'elle soit, sur le bâtiment. Bon, c'est un bâtiment qui est relativement fermé, avec un gros portail métallique d'entrée qui permet de sortir ou rentrer le matériel. Et jusqu'à présent, on n'a vraiment eu aucun souci de ce point de vue-là.
Et puis vous citiez tout à l'heure l'éventuel impact que ça pouvait avoir sur la biodiversité ou la faune ou la flore locale, évidemment quand c'est en période de sécheresse. Le reste du temps, il n'y a pas de modification particulière lorsque la turbine recrache plus à un endroit précis ?
Non, à la sortie de la turbine, il y a une conduite qui aboutit au ce qu'on appelle le canal de fuite. Donc l'eau repart doucement dans la rivière Drôme. Il n'y a aucun souci.
Ça aussi, c'est une étude particulière de pas accélérer le débit à un endroit précis.
Bien sûr.
D'accord.
Donc, c'est les études qui avaient été faites à l'époque ont été réalisées par des bureaux spécialisés. Et donc, il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là.
Alors, vous disiez que vous étiez les pionniers à l'époque et que vous êtes encore la seule commune à posséder sa propre microcentrale, sa microcentrale publique donc et communale. Est-ce que vous en glorifiez d'être encore les seuls ?
Oui, on est quand même assez fiers d'avoir un tel outil parce qu'il est rare, comme on l'a dit tout à l'heure. Cela dit, parfois, des collègues ou des gens me questionnent comment on a pu réaliser un tel investissement à l'époque. Peut-être que certains sites dans la Drôme pourraient encore être équipés. Cela dit, c'est de plus en plus difficile maintenant avec les contraintes en matière environnementale et administrative. C'est de plus en plus difficile de créer de tels équipements à notre époque.
La microcentrale de Luc ne fait pas valeur d'exemple et ne lance pas des vocations dans le reste de la Drôme, par exemple, ou dans le reste du
Diois. Il y a une question de volonté d'abord, une question de volonté des élus de se dire est-ce que sur ma commune, compte tenu de la rivière que j'ai est-ce que je peux réaliser un tel équipement ? Ensuite, ça nécessite bien sûr une préétude pour voir si la rentabilité de l'investissement est valable. Hein, parce que si on fait un investissement et qu'il faut attendre 50 ou 60 ans pour le rentabiliser, c'est plus possible à notre époque. Mais il y a peut-être des communes, je pense notamment, pourquoi pas à Châtillon. Châtillon avec le Besse a souvent beaucoup d'eau. Peut-être une commune comme Châtillon pourrait envisager un tel équipement.
Comment avez-vous réussi à monter cela dans les années 80 ? Qui vous a aidé ? D'où venait l'argent ?
Alors en fait, dès l'origine, les études avaient montré que le niveau du cours d'eau de la rivière Drôme serait largement suffisant pour que la machine puisse tourner à fond quasiment tous les hivers. Or, ça n'a pas été vrai, puisqu'il y a eu des hivers très doux, où le niveau de l'eau était bas. La commune de Luc a dû avoir recours à l'aide du Conseil général de la Drôme. Donc le Conseil général de la Drôme avait accepté à l'époque les années où la commune de Luc ne pouvait pas rembourser ses emprunts, qui étaient des emprunts importants, de se substituer à la commune, donc rembourser les emprunts à la place de la commune. Mais bien entendu, ce n'était pas une subvention, c'était une avance en garantie.
À taux zéro ?
À taux zéro.
Ah.
Oui, s'il faut le préciser. Et donc, nous avons, au fil des années, remboursé ces sommes au Conseil général. Nous avons fini de payer nos emprunts. Nous avions rééchelonné la dette parce que les emprunts étaient importants. Et à l'époque, c'était des emprunts à des taux de 10-12% d'intérêt. Donc, on avait renégocié notre dette, réétalé cette dette. Ce qui fait qu'à ce jour, nous avons fini de payer nos emprunts. Nous avons totalement remboursé ce qui était dû au Conseil général. Ce qui nous permet maintenant de voir l'avenir avec optimiste, avec quand même un seul bémol, et il est important, c'est que EDF, n'ayant plus d'obligation de rachat de l'électricité, comme c'était le cas jusqu'à présent, et ce rachat d'électricité se faisait à des prix relativement élevés, bien plus élevés que le marché de l'électricité en France et en Europe, Cette obligation ayant disparu, EDF ne nous rachète plus notre électricité à partir du mois prochain et nous avons été obligés de faire appel à des acquéreurs potentiels. Nous avons eu 13 propositions. Sur ces 13 propositions, nous avons sélectionné 6 entreprises que l'on a auditionnées dernièrement pour qu'elles nous expliquent bien comment ça allait se passer, parce qu'il y a différentes formules de rachat de l'électricité. Ça peut aller d'un rachat basé sur le cours de la bourse. Donc vous voyez que le prix change tous les jours et toutes les heures, avec des solutions plus fiables pour nous, petites communes, d'avoir un prix garanti pendant un certain nombre de mois, ce que nous avons choisi. Donc là, nous allons contractualiser avec la société GEG, Gaz et Électricité de Grenoble, qui est basée à Grenoble, et qui produisent eux-mêmes de l'électricité et qui rachètent de l'électricité, pour une période de 15 mois, donc jusqu'au mois de décembre 2013. Nous avons un prix garanti, quelle que soit l'évolution du cours de l'électricité sur le marché national. Et puis après, ben dans un an, nous verrons si on continue avec cette entreprise, si on est satisfait, sachant qu'actuellement, nul n'est capable de dire quelle va être l'évolution du marché du prix de l'électricité.
Juste, je voulais revenir sur l'investissement de départ. Est-ce que vous savez combien précisément, combien a coûté le projet ?
Alors à l'origine, le projet a été évalué à, je parle en francs, hein, oui. 9 500 000 francs. C'était le prix de l'époque, donc ça comprenait l'ensemble des ouvrages, bâtiments, conduite d'amener et l'ensemble du matériel, turbine, armoire électrique, etc. Donc ce qui correspond à peu près à 1 450 000 euros actuels. À l'origine, la commune avait estimé qu'elle n'avait pas besoin d'avoir recours à une subvention quelconque, donc elle s'était engagée un tout petit peu sur ses fonds propres, mais elle avait emprunté à hauteur de 90% de cette somme pour pouvoir faire l'investissement. Il s'est avéré quelques années après qu'elle aurait dû, dès l'origine, voir s'il n'y avait pas des possibilités de subvention, ce qui donc a été fait a posteriori. Lorsque j'ai été élu maire en 1995, mon premier travail, ça a été de voir avec Charles Mange, qui à l'époque était conseiller général du canton de Luc et ensuite président du conseil général de la Drôme, de voir s'il y avait un moyen d'obtenir une aide sur cet investissement a posteriori, et puis aussi de voir comment on allait pouvoir renégocier notre dette. Mmh. Donc avec l'appui du conseil général, nous avons renégocié nos emprunts. Et le Conseil général a accepté de nous octroyer une subvention importante de l'ordre de 200 000 euros, quelque chose comme ça. Cette subvention n'a pas été versée naturellement à la commune, mais elle est venue en déduction de ce que la commune devait au Conseil général pour les années et les mois où le Conseil général s'était substitué à la commune.
D'accord.
Donc ça nous a quand même bien soulagés. Et puis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, petit à petit, on a réussi à apurer tout ça.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Parlant de Pico Central, il était important de s'adresser à la mairie de Romeyer en la personne de son maire, Monsieur Raymond Biglia.
Oui, bonjour. En fait, nos intentions de monter une Pico Central sur l'eau potable, c'est l'objectif, c'est turbiner de l'eau potable pour faire de l'électricité. Ce projet est maintenant en bonne voie avec la ville de Die. Pour pouvoir aboutir sur un délai très court, puisque la ville de Die est en train de refaire ses canalisations. La source de la ville de Die est sur la commune de Romeyer.
Donc ce sera l'eau potable de la ville de Die qui générera de l'électricité.
Exactement.
Et ça, vous avez une estimation de ce que vous pouvez attendre comme production d'électricité ?
Les estimations de l'étude de cadrage qui ne sont pas encore totalement validées, mais on espère faire 60-70 kWh. Voilà.
Alors vous en êtes au début de votre projet, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des premières démarches que la mairie et vous-même avez effectuées pour monter cette centrale énergétique ?
Les premières démarches, vous savez, ça a d'abord été une marche dans l'inconnu parce qu'en fait le turbinage d'eau potable est quelque chose d'exceptionnel et même très rare en France, même si dans d'autres pays ça s'est plutôt développé. Et en fait, quand on veut se lancer dans une opération comme celle-ci, eh bien, il y a beaucoup de travail, de recherche, et surtout, on avait beaucoup à convaincre de l'intérêt de la chose de beaucoup de gens. Il se trouve que maintenant, les questions qui sont posées en matière d'énergie renouvelable font bien avancer les choses. Et notamment, en termes sanitaires, on a beaucoup progressé sur les matériaux pour pouvoir avoir du turbinage dans de très bonnes conditions sanitaires.
Par exemple, les ailettes ne sont pas en fer pour mettre de la rouille dans l'eau potable.
Non seulement elles ne sont pas en fer, mais même l'eau potable qui est turbinée, en fait, agit sans contact avec des éléments qui risqueraient de perturber sa qualité.
Alors donc, où est-ce que vous en êtes de vos démarches ?
Les démarches, nous avons fait d'abord une étude de cadrage pour avoir au minimum les grandes lignes de la faisabilité de la chose, hein, qui permet d'imaginer comment on pourra turbiner et surtout quelle sera la valeur économique de ce qui en sortira quand même, la valeur sanitaire aussi, avoir les grandes lignes des conditions de réussite d'une telle opération. Nous en sommes là. La ville de Die et la commune de Romillé ont passé une convention ensemble. Cette convention prévoit très clairement les éléments nécessaires à engager une étude détaillée et à prévoir justement tous les éléments de la maîtrise d'œuvre future. Donc nous en sommes là et c'est l'étude détaillée quand même qui ouvrira l'accord définitif de coopération entre les deux communes pour lancer opérationnellement la Pico Centrale.
Vous avez une idée de combien ça pourrait coûter, cette Pico Centrale ?
Aujourd'hui, nous sommes très loin d'avoir tous les éléments, mais nous sommes dans une perspective de 200 à 250 000 euros.
Pourquoi la commune de Romillé s'est-elle penchée sur ce projet ?
Vous savez, c'est une toute petite commune, 220 habitants en principal. Quand vous arrivez à la responsabilité de la gestion d'une petite commune comme ça, vous faites un inventaire, si je peux m'exprimer ainsi, en cherchant à regarder les forces et les faiblesses de cette commune. Il est vrai qu'en matière économique, nous n'avons pas grand-chose. Nous n'avons pas possibilité d'attirer des entreprises ni d'activités à développement. Nous avons l'agriculture, nous avons la nature et nous avons de l'eau. Avec tout ça, on essaie d'avancer et de se mettre en perspective d'un avenir et par rapport aussi notamment à tous les grands problèmes d'aujourd'hui. Je crois qu'avoir de l'eau aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il faut la protéger, mais aussi peut-être justement c'est une opportunité pour à la fois donner un signe en termes d'autonomie énergétique et en même temps en valeur économique. Voilà.
Alors très prochainement, il y a une conférence environnementale qui va être organisée par le gouvernement sur ce thème de l'autonomie énergétique. Et je voulais vous poser la question de savoir si les communes, en général, avaient une marge de manœuvre pour se lancer dans ce genre de dossier.
Je ne peux même pas dire qu'on a une marge de manœuvre. Aujourd'hui, pour moi, en tous les cas, petite commune, je me sens bien seul sur le sujet. En fait, il s'agit d'avoir de l'initiative nous-mêmes et d'aller ensuite à la recherche d'accompagnement pour réaliser de tels projets. Autonomie énergétique, c'est peut-être un grand mot, mais en même temps, la recherche de devrait être facilité et à mon avis on devrait être plus aidé pour essayer de mettre en valeur justement tout l'environnement qui est à notre disposition dans nos communes parce qu'en fait beaucoup de communes ont des forces qui ne sont pas utilisées pour avoir des énergies renouvelables et nous c'est notre cas, hein. On a une centrale hydroélectrique qui produisait 150 kWh. Demain, elle va en produire 6 fois plus parce qu'on la déplace. On a le privé qui exploitait cette centrale est venu vers la commune pour essayer d'imaginer un projet. Nous l'avons accompagné, nous travaillons ensemble. Et c'est comme ça aussi que nous est venue l'idée de réunir nos forces pour notamment partager des réseaux, partager des choses comme ça, pour pouvoir réaliser un projet communal aussi. En termes de production, sur la commune, par l'hydroélectricité, on produira plus qu'on a besoin de consommer.
Vous avez une idée de ce que ça représente comme montant financier, 50 kWh?
On va dire, si vous voulez, moi je préférerais l'aborder sous cet angle-là, on devrait amortir l'installation en moins de 10 ans. Voilà.
Vous me disiez que c'était très rare ce genre de dispositif. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et pourquoi ça n'a pas été développé plus en avant ?
L'une des premières raisons, c'est quand même que vous ne vous lancez pas dans des productions de grande dimension. Néanmoins, aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les énergies sont bonnes à prendre. Et en fait, quand vous avez des flux d'énergie, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'air ou autre, il faut être capable de capter cette énergie et de la transformer. Ça part d'un raisonnement très simple, hein. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été aidé dans ce domaine-là. Je vous disais parce qu'il y a des problèmes sanitaires, mais aussi parce qu'en fait, on n'avait que des niveaux de production qui étaient trop bas pour intéresser le monde. Alors qu'aujourd'hui, on passe dans une vision autre de l'énergie et donc on cherche à capter toutes ces forces d'énergie que l'on peut transformer en énergie électrique, par exemple.
Monsieur Piglia, merci d'être venu nous voir pour me parler un peu de ce projet. On se donne rendez-vous dans à peu près 2 ans quand ce projet pourrait aboutir, c'est ce que vous m'avez dit avant l'antenne.
Oui, mais sous 2 ans, je pense que nous serons en production sans problème.
Et ce sera passionnant de couvrir cet événement et de voir comment ça fonctionne. Moi, j'aime bien la technique.
Absolument.
Monsieur Piglia.
Au revoir et merci.
Capsule. Donc c'était une émission qui était préparée dans le cadre de l'économie énergétique. Y a-t-il d'autres projets à Luc ?
Oui, il y en a beaucoup, notamment la réalisation de notre maison de retraite, hein, dont le permis va être déposé très prochainement. Cette maison de retraite va se situer sur un terrain qui comportera également une petite maison médicale, du logement locatif social. Le tout sur un vaste terrain et comme tout à l'heure on parlait d'éclairage public, justement on va profiter de cette opération pour faire en sorte que l'éclairage public de cette zone se fasse avec les économies d'énergie et les technologies actuelles qui permettent d'économiser beaucoup d'électricité sur l'éclairage. Donc c'est un des prochains grands projets de la commune qui démarre quoi, actuellement.
Raymond Parent, maire de Luc-Andiwa, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation.
Mais c'était avec plaisir.
Et puis ben, sans doute à bientôt, peut-être pour parler plus longuement de ce projet de maison de retraite.
Mais très volontiers, merci à vous.